pour prolonger cette réflexion sur la confiance dans laquelle nous a conduit Cyril, que de parler de l'Épître aux Hébreux du chapitre 11. Ce n'est pas tout à fait un hasard, il savait que j'allais prêcher là-dessus, mais je dois remercier tout de même d'avoir vraiment, avec pertinence, proposé cette louange tout à fait adaptée. Et donc, le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, qui est le fameux chapitre au cours duquel l'auteur inconnu de cette Épître donne une définition de la foi et passe ensuite en revue un certain nombre d'exemples de personnages bibliques animés par la foi. Et je dois vous dire aussi que ce message sera aussi un peu inspiré par des écrits de méditation donnés dans la dénommée Sa Parole aujourd'hui, qu'on peut recevoir quotidiennement par Internet. Mais déjà, dans le chapitre 10, donc de l'Épître aux Hébreux, nous avons une introduction à partir du verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et dès le départ, l'auteur plante le décor. Une rémunération est attachée à ce que l'auteur n'appelle pas encore la foi, mais notre assurance. Et ce thème, dans ce passage de la rémunération ou de l'héritage, va revenir à plusieurs reprises dans les lignes qui suivent, comme nous le verrons. Mais voilà qu'il nous dit un peu de persévérance dans cette attitude de confiance est nécessaire pour que notre foi soit mise à l'épreuve par l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies. Et nous avons ici un encouragement, non pas à revenir en arrière, mais plutôt à persévérer dans la foi qui va être décrite ensuite à l'image de tous les exemples de personnes qui vont être citées. Et ensuite, on entre dans le vif du sujet, à partir donc du chapitre 11 et du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à une telle définition? À quoi bon la commenter? Tout est là. Ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. En des termes plus actuels, la Bible en français courant la traduite ainsi, ou la paraphrase ainsi, « Avoir la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. » Et presque aussitôt après, le verset 3 nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas, que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Dieu n'a pas besoin d'être visible pour être une réalité. Il a la puissance de créer des choses visibles à partir de ce qui ne l'est pas. L'expression qu'on entend souvent, qui est une expression consacrée, souvent en termes de foi, « je ne crois que ce que je vois ». Et l'expression même de l'incrédulité, celle que dénonce Pierre chez les adeptes, que cette pensée que le réel se limite au matériel et que tout ce qui ne peut pas être vu de nos yeux n'existe pas, et qui dénonce en disant ceci, l'apôtre Pierre, où est la promesse des incrédules qui disent où est la promesse de son avènement? Ça fait des siècles que on nous l'annonce, mais on ne voit toujours rien venir. Voilà ce qui oppose la foi et l'incrédulité. Et il nous a été dit plus haut, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Une foi qui embrasse le passé, et le futur, depuis la création du monde jusqu'au retour du Seigneur. Rien de moins que ça pour nous et à quoi il nous est demandé d'adhérer. Si on y regarde un peu plus près, est-ce qu'il n'y a pas déjà un peu de foi dans nos gestes les plus élémentaires de la vie quotidienne? Je me souviens d'un jeune missionnaire étranger qui est arrivé en France et chaque matin allait chercher sa baguette de pain. C'est une particularité française, la baguette de pain, schéma classique, et il se réjouissait de pouvoir tous les matins aller chercher sa baguette de pain. Et comme le boulanger avait remarqué son accent, il lui avait dit « Mais vous n'êtes pas de chez nous, vous faites quoi ici ?» Et il lui expliquait qu'il était venu pour partager sa foi avec les Français. Et le boulanger est parti dans une réflexion, lui dire « Ouais, toute la vie c'est une question de foi. Vous êtes venu chez moi ce matin parce que vous croyez que je vais vous donner une baguette. Et moi, je vous donne une baguette parce que je crois qu'en échange, vous allez me donner l'argent qui va permettre de faire vivre ma famille. Toute la vie est une question de foi. On peut prendre chacune de nos actions quotidiennes. On se lève le matin parce qu'on croit que ces activités auxquelles nous nous livrons chaque jour sont nécessaires et bien, à notre subsistance, et parce que en échange du travail que nous fournissons, nous obtenons le salaire qui en découle. Et si un beau jour, le boulanger, pour une raison quelconque, n'avait pas fabriqué de pain, est-ce que je cesserais de croire que je peux revenir demain? Non. Très probablement, je serai là de nouveau demain et je viendrai chercher ma baguette de pain. Et si nous agissions ainsi pour toutes les choses auxquelles Dieu nous appelle chaque jour, on n'aurait plus de problème pour vivre par la foi. S'en remettre à Dieu en toute chose, en tout temps, si c'était aussi naturel que de nous lever le matin pour vaquer à toutes nos occupations, nous marcherions par la foi du matin au soir. Verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et voici donc ces personnes, en quoi cela a consisté pour eux, à partir du verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Encore la question de la rémunération. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. L'héritage. Nouvelle forme de rémunération envers ceux qui cherchent Dieu. Dieu a hérité d'un nouveau monde après le déluge. Et ça nous rappelle aussi, si on lit l'Épître aux Hébreux en entier, de l'insistance que l'auteur met à cette notion de salut, héritage du chrétien. Et en mentionnant ainsi le salut de la famille de Noé, il suggère aussi qu'un homme dont la foi est féconde, cette foi est féconde non seulement pour lui, mais aussi pour toute sa famille, si elle partage cette foi avec lui. À partir du verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il partit s'établir dans une terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » On l'a lu ce matin. Il pensait même que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, et il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Ce passage commence en citant l'exemple de celui qu'on appelle souvent le père de la foi, Abraham, qui a, comme dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, espéré contre toute espérance. Et Sarah, qui a cru à la fidélité de Dieu au point de ne plus voir sa propre stérilité pour devenir une mère féconde, après avoir cité cet exemple, voilà que l'auteur nous prend à contre-pied pour nous parler de promesses qui ne sont pas accomplies, ou en tout cas qui ne sont pas accomplies du vivant de ces personnes, et d'Abraham et Sarah. Mais en soulignant malgré cela que, plutôt que même malgré cela, elles sont mortes dans la foi, il nous fait entrer dans une dimension dont la foi dépasse nos espérances terrestres et embrasse une réalité infiniment plus grande et plus importante, plus profonde. Et les versets 14 à 16 qui nous dit « Il cherche une patrie », bien évidemment c'est une allusion à la Jérusalem céleste qui est la patrie à laquelle nous appartenons vraiment et vers laquelle nous allons. Le verset 13 qui nous dit qu'ils n'ont pas obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Comment ne pas penser à Moïse sur la montagne lorsqu'il contemple la terre promise qu'il n'a pas, dans laquelle il n'a pas droit de rentrer, mais voilà, il la voit, il la salue de loin. Après 40 ans passés dans le désert à conduire son peuple. Pourquoi cette parenthèse sur ces personnes qui n'ont pas vu ces promesses, les promesses se réaliser de leur vivant et ont malgré tout persévéré dans la foi en plein milieu du récit d'Abraham? Pourquoi? Et je crois que l'explication, elle réside dans la fin du passage de ces versets, au verset 19. Le point culminant de la foi d'Abraham, on le sait, c'est le moment où il s'apprête, à la demande de Dieu, à sacrifier son fils Isaac. Quelle épreuve pour cet homme! Verset 17 le cite en exemple pour sa foi, lui qui avait reçu et vu s'accomplir la promesse, son fils unique, le premier de sa postérité. Mais ce n'est pas toujours compris ainsi, et un jour j'ai entendu un commentaire assez acerbe qui disait ceci, « Oui, on fait l'éloge d'Abraham pour sa foi, mais lequel d'entre nous voudrait avoir un tel homme pour père ?» C'est une réflexion qui est humainement d'une logique implacable, mais elle décrit vraiment parfaitement l'abîme qui sépare la foi de l'incrédulité. Nous savons, nous, ce qui s'est passé, contrairement à Abraham, avant que ça arrive, il ne savait pas ce qui allait se passer, mais nous savons, nous, comment Dieu a arrêté, dans son geste même, le sacrifice qu'Abraham allait accomplir. Mais jusqu'à ce que cette lettre aux Hébreux soit écrite, il n'avait été nulle part mentionné dans la parole quelles étaient les pensées d'Abraham au moment de porter la main sur son fils. Et voici, il nous est dit ici au verset 19 qu'il croyait, il avait la foi de croire que Dieu allait ressusciter Isaac d'entre les morts. Voilà quelle était la pensée d'Abraham au moment où il s'apprête à sacrifier son fils. C'est-à-dire que pour celui qui croit, même la mort ne peut pas éteindre la foi. Même la mort n'empêche pas l'accomplissement de la promesse. Celui qui croit ne craint pas de mourir avant de voir s'accomplir la promesse. On y reviendra un peu plus loin. Verset 20, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Et voilà la postérité d'Abraham qui s'inscrit dans la promesse, dans l'accomplissement de la promesse, et qui prolonge la foi d'Abraham par cette bénédiction qui est donnée ainsi aux descendants de père en fils. À partir du verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Encore une mention à la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Moïse, ah Moïse. Imaginez que vous avez entrepris une mission importante et les choses se passent merveilleusement bien. Et vous sentez que Dieu bénit vos efforts, Dieu bénit le travail que vous faites et que vous produisez pour sa gloire. Et tout à coup, les circonstances changent, vous rencontrez des difficultés imprévues, le découragement vous envahit. Ceux en qui vous aviez le plus confiance se mettent à vous rendre responsable de la situation et vous vous surprenez à regretter de vous être engagé dans cette aventure. Eh bien, bienvenue dans le monde de Moïse. Dieu l'avait choisi de conduire le peuple d'Israël, loin de l'Égypte et de l'esclavage qu'il y subissait, pour rejoindre le pays qu'il lui avait promis 400 ans plus tôt. Mais quand les Israélites se trouvent coincés entre devant eux la mer Rouge et derrière eux l'armée égyptienne, leur confiance fait place à la terreur. Et ils se tournent vers Moïse et ils le déclarent responsable de leur malheur. Et ils disent cette chose incroyable, qu'ils préfèrent retourner en Égypte. Comment est-ce possible? Mais quelle fut sa réaction? Il ne se laisse pas, il laisse pas ses émotions l'emporter sur la foi, et il continue de croire en la promesse divine, en déclarant au peuple, ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et on sait que c'était un très bon conseil, mais lui, avant de le ne savait pas ce qui allait se passer, comment Dieu allait intervenir. En Église, inscrivons-nous dans cette déclaration de foi. Nous avons 3 sujets de prière en Église. L'avenir pastoral, l'élargissement de notre espace, l'évangélisation au Sud. Ne craignons rien. Restons en paix. Attendons la direction que le Seigneur va nous indiquer. Verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Quand on y réfléchit, c'est quand même un peu incroyable, juste trompeter comme ça pendant 7 jours autour d'une cité sous les remparts de Jéricho, et là, tout se casse la figure. Ça paraît impossible. Moi, j'ai gardé le souvenir d'un homme qui, semaine après semaine, mois après mois, année après année, rendait visite à des personnes chez qui, mais je ne discernais pas le moindre début d'espoir, d'intérêt pour les choses spirituelles. Et j'apprends très récemment que 25 ans après, il fréquente assidûment l'Église. Voilà ce que la foi peut faire. Quelques trompettes face à une muraille, quelques paroles face à l'incrédulité dont nous avons parlé tout à l'heure, et voilà ce que Dieu est capable de faire de notre foi. Voilà ce que Dieu est capable, comment il est capable de transformer notre obéissance et notre persévérance. Quelle autre rémunération pouvons-nous attendre de plus sur cette terre ? Verset 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et ce verset s'inscrit vraiment en écho du précédent. La foi est accessible à tous, sans distinction d'origine. Si une non-juive, prostituée de surcroît, et non-juive, ça veut dire quelque chose pour l'épître aux Hébreux à laquelle s'adresse l'auteur. Si cette personne a pu être adoptée comme faisant partie du peuple d'Israël, au point même d'être inscrite dans le livre de la généalogie de Jésus, aucune incrédulité ne peut tenir face à l'action de l'Esprit de Dieu dans le cœur d'une personne. À partir du verset 32, et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, on pense à Daniel dans la fosse, éteignirent la puissance du feu, et on pense aux amis de Daniel jetés dans la fournaise, échappèrent au tranchant de l'esprit, de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, David. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, le fils de la veuve de Sarepta, le fils de la Tsunamite. D'autres furent livrés au tourment, et de nouveau, on a la même forme que tout à l'heure. On est pris à contre-pied par tous ceux qui, pour lesquels la foi a signifié de l'adversité, de l'opposition, de gros revers. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et de nouveau, ça nous renvoie à Abraham, qui attendait la résurrection de son fils Isaac. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Jérémie a passé beaucoup de temps en prison. Ils furent lapidés. On pense là à Zacharie, non pas à celui, le prophète, dont un livre est dans la Bible, mais un autre Zacharie, dont il est parlé plus tôt. Scié. Un récit apocryphe dit que Ésaïe aurait été scié en deux par une lame de scie d'un serviteur du roi Manassé. Torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Voilà quelle est l'espérance de ceux qui n'ont pas vu les promesses s'accomplir de leur vivant. Comme Abraham et Isaac, ils croient qu'elles se réaliseront à la résurrection. La mort n'éteint pas leur foi. La mort n'a pas de prise sur leur foi parce que leurs yeux sont fixés au-delà. En quoi croyons-nous? Dans quelle direction portons-nous nos regards? Paul dit aux Corinthiens, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et en effet, si notre espérance ne porte que sur ce que nous pouvons vivre et obtenir de Dieu sur cette terre, alors nous risquons d'aller devant de grandes désillusions. Il a été abondamment question de rémunération dans ce passage, mais si c'est en cette vie que nous attendons une rémunération de notre foi, nous serons, comme le dit Paul, les plus malheureux de tous les hommes, plus malheureux même que les incrédules qui au moins ne se bercent pas d'illusions sur leur foi, sur ce que la foi pourrait leur apporter. Est-ce que les personnes citées en exemple dans ces passages, dans ce passage, avaient des capacités hors du commun? Se sentaient-elles investies d'une mission? Combien d'entre elles se sentaient comme un poisson dans l'eau à l'idée de faire ce que Dieu leur demandait? J'ai lu que, alors je ne sais vraiment pas comment, Ivan, tiens, tu vas me le dire, comment on dit Spurgeon? le prédicateur Spurgeon, voilà. Voilà, donc ce grand prédicateur, célèbre prédicateur britannique du 19e siècle, avait un élève qui se prenait déjà pour un grand prédicateur, mais après être monté triomphalement en chair lors de son premier sermon, il en est descendu la tête basse parce qu'il avait été lamentable. Et ce prédicateur lui aurait déclaré: si vous étiez monté en chair avec, si vous étiez monté en chair de la manière avec laquelle vous en êtes descendu, peut-être en seriez-vous descendu de la manière avec laquelle vous y êtes monté. Très peu de ceux dont nous avons parlé aujourd'hui se sentaient à la hauteur de la tâche qui leur était confiée. Éventuellement, on peut citer Ésaïe, mais encore, je vais m'expliquer. Ésaïe répond vraiment favorablement à l'appel du Seigneur par cette parole d'obéissance. Me voici, envoie-moi. Mais à cet instant, lorsqu'il dit ceci, lorsqu'il répond ainsi à Dieu, Ésaïe est déjà un prophète expérimenté. Et je crois qu'il faut plutôt entendre par là, je suis à ton service, je ferai tout ce que tu jugeras bon de me demander. C'est déjà une parole de foi, et s'inscrit déjà dans la foi. Si c'est Dieu qui me le demande, lui qui sait tout, alors j'obéirai. Mais pour la plupart, bon nombre de ceux qui ont été appelés à ce qui s'est avéré être par la suite réalisé de grandes choses, ont cherché tous les prétextes pour s'y soustraire. Bien nombreux ont été ceux qui ont tenté de décliner plus ou moins élégamment l'offre qui leur était faite. Moïse, envoie plutôt Aaron. Jérémie, quand Dieu l'appela pour prêcher à un peuple endurci, égoïste, peu attentif, il se mit à se plaindre si fort que même son nom a donné le mot Jérémiade. Et même Jonas, on en a parlé il y a quelques temps. À quelle heure le prochain bateau pour très loin, pour le bout du monde? Nous en avons parlé. Jonas, c'est peut-être un cas un peu différent, mais parce que chez lui, c'est plus peut-être la révolte que le sentiment d'incapacité qui prime. Et quoi qu'il en soit, aimerais-tu avoir ça sur ton CV? Aujourd'hui, si tu te sens totalement incapable d'accomplir la mission que Dieu veut te confier, alors rassure-toi, tu es en très bonne compagnie. Tu es en compagnie d'Abraham, de Gédéon, d'Esther, de tous ceux dont on a parlé, et de pas mal d'autres. Aucun ne s'est précipité pour dire « pas de problème, je peux régler ça tout seul ». Mais voici comment l'auteur conclut ce plaidoyer pour une foi au service de Dieu. Ça déborde sur le chapitre 12. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et mène à la perfection, et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux avait introduit ce passage sur la foi en disant « Vous avez besoin de persévérance ». Et il le conclut de la même manière, en disant « Courons avec persévérance ». La foi se construit dans la persévérance. Et il avait également commencé ce passage en nous exhortant à porter un regard qui va au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, vers la rémunération, l'accomplissement de toutes les promesses, et notamment celle du retour du Seigneur et de l'apparition de la Jérusalem céleste. Cette patrie, la Jérusalem céleste, cette patrie à laquelle Abraham aspirait. Et également, il le conclut en nous exhortant à porter nos regards sur Jésus, à les fixer sur lui, d'abord comme serviteur modèle qu'il a été, mais qui désormais est assis à la droite du trône de Dieu, dans l'attente de notre résurrection et de la manifestation de sa gloire. Amen.